Heureux de vous accueillir, de vous retrouver. Soyez bienvenus pour ce nouveau numéro d'International. Notre invité aujourd'hui, Jack Lang. Merci Jack Lang d'être avec nous. Figure iconique, on pourrait dire, de la vie politique française. Vous avez été ministre de la Culture, bien sûr, de François Mitterrand. Vous avez occupé de nombreux ministères et vous êtes aujourd'hui, depuis deux ans, le président à Paris de l'Institut du Monde Arabe. Grande institution créée par François Mitterrand, inaugurée il y a une trentaine d'années pour améliorer les relations diplomatiques entre la France et le monde arabe. Beaucoup de questions à vous poser avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Hayat du Service international du Monde. Beaucoup de questions sur le rôle de cette institution qui a pris sa place dans Paris depuis près de trois décennies. On le disait, c'est quoi? C'est un outil culturel, diplomatique, politique?
C'est tout ça à la fois et autre chose en même temps. C'est un pont entre le monde arabe au sens le plus large et les autres cultures et les autres civilisations. Je rectifie un tout petit peu votre présentation. C'est Monsieur Giscard d'Estaing.
C'est vrai, mais c'est François Mitterrand qui l'a inauguré.
Absolument.
Vous avez raison.
C'est Monsieur Giscard d'Estaing qui a inventé cette idée avec, je crois, en lien avec le roi d'Arabie Saoudite ou le chir des Émirats Arabes Unis. Mais il n'est devenu réalité physique qu'à partir de 1881, lorsque, ministre de la Culture, j'ai confié ce projet de construction à Jean Nouvel.
Alors, je le disais, le monde arabe dans la tourmente, depuis quelques années, il y a eu ce qu'on appelle le printemps arabe, peut-être reviendrez-vous sur cette formule. Je voudrais qu'on commence à parler de la Syrie avec une exposition que vous avez accueillie il y a un an et demi, des images qui aujourd'hui font le tour du monde, ce sont des photographies qui ont été prises dans les prisons de Bachar el-Assad, où l'on voit des tortures, où l'on voit des gens affamés qui meurent de faim, etc. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, à Paris, ces images que l'on voit ici, pourquoi est-ce que ces images n'ont pas retenu la même attention? Et pourtant, elles étaient exposées chez vous, à Lima.
Oui, il y a même eu des rencontres, un colloque avec un certain nombre de personnalités, et en particulier, je crois, deux anciens procureurs généraux auprès de tribunaux spéciaux, notamment celui de la Sierra Leone, d'autres personnes qui, journalistes, qui avaient participé à la découverte de ces documents. C'est vrai que c'était, moi j'y ai participé activement, c'était saisissant.
Mais la France utilise d'ailleurs ces images aujourd'hui pour attaquer Bachar el-Assad, crime de guerre, acte de torture.
Alors pourquoi, je ne peux pas vous répondre, probablement aussi parce que il fallait s'assurer de l'authenticité de ces images.
D'un photographe qui travaille sous le pseudonyme de César. Et qui se cache pour des raisons que l'on comprend bien. Christophe Hayat.
Monsieur Lang, il y a une procédure judiciaire lancée contre Bachar el-Assad, enfin contre le régime syrien, à partir de ces images. Est-ce que c'est le moment de la justice ou est-ce que c'est le moment de la guerre ou est-ce que c'est le moment de la diplomatie? Est-ce qu'on peut mélanger tous ces moments? Vous êtes juriste de formation, je crois.
Rien n'interdit qu'on puisse simultanément engager une action pénale, entreprendre des actions militaires et puis tenter de trouver des solutions politiques. Je dirais que la situation est si complexe, vous le savez, que nous ne devons ménager aucun effort pour tenter de trouver une solution aux deux questions qui se posent. Comment finir avec un système de répression monstrueux incarné par le dictateur syrien
Bachar el-Assad,
et comment réussir à éradiquer Daesh?
Il y a une époque, vous-même, je me rappelle en 2008, on vous entendait dire qu'il fallait absolument discuter avec Bachar el-Assad. C'était avant les révolutions arabes. À partir de quel moment, quelle est votre vision aujourd'hui de la position que la France doit avoir à l'égard de Bachar el-Assad?
Vous avez bonne mémoire, et en effet, à ce moment-là, je me suis rendu à Damas pour rencontrer le président syrien, parce que je pensais que la question du Moyen-Orient, comme on dit, ne pouvait être réglée en tenant la Syrie à l'écart. Mais à ce moment-là, le président syrien ne s'était pas livré aux attaques contre son peuple. C'est plus tard que s'est engagée cette action contre le peuple syrien.
Le régime était déjà très verrouillé.
Le régime n'était pas le plus démocratique du monde, c'est clair. Et il y avait déjà des prisons pleines. Mais en même temps, je dirais que la cause de la paix, à ce moment-là, devait l'emporter sur toute autre considération.
Mais Monsieur Lang, alors aujourd'hui, quelle est la priorité? Est-ce que c'est la lutte contre le régime de Bachar el-Assad ou est-ce que c'est celle contre Daesh? Est-ce qu'on peut opposer ces deux objectifs qui paraissent quand même contradictoires?
Et on voit qu'il y a une tentation acteurs. Internationale de dire dans l'ordre, commençons par parler avec Bachar ou son régime.
Daesh commet des crimes monstrueux, se livre à des actes de barbarie innommables, s'attaque à des œuvres de l'humanité, je pense à Palmyre et à quelques autres vestiges de la civilisation. Mais il ne s'agit pas de faire une comptabilisation macabre qui comparerait les crimes des uns et des autres, mais on ne peut pas oublier que pendant les années écoulées, c'est plus de 200 000 personnes qui ont été massacrées. Ces images que vous avez montrées à l'instant montrent avec quelle sauvagerie, cruauté, Assad pourchasse les rebelles, les adversaires, et prêt à tout, l'utilisation des armes chimiques à plusieurs reprises. Et il est regrettable que les États-Unis aient laissé la France seule face aux crimes commis, aux violations du droit international par Assad en utilisant des armes chimiques. Donc, vouloir traiter avec des criminels pour éradiquer des criminels, ce n'est pas une solution, en tout cas souhaitée par un certain nombre de pays, dont la France.
Mais précisément, oui. Aujourd'hui, comment est-ce que vous lisez l'attitude de la France? On a eu l'impression qu'il y a des atermoiements. Dernièrement, on entendait que le départ de Bachar el-Assad n'était plus un préalable. Aujourd'hui, avec cette action en justice, on se dit que c'est tout de même ce qui est visé. Comment est-ce que vous lisez la position française? Non,
notamment depuis les frappes aériennes.
La position française, Elle est claire depuis plusieurs années, en vrai depuis que François Hollande est président de la République. Nous voulions dès l'origine porter assistance à ceux qui combattaient le régime d'Assad. Nous sommes trouvés parfois un peu isolés. Nous voulions, François Hollande souhaitait punir Assad d'avoir utilisé des armes chimiques. Obama avait promis et nous a lâché chemin faisant. Aujourd'hui, il a été décidé, en effet, de proposer qu'on envisage internationalement une solution, mais qui ne peut pas inclure Assad dans la solution.
Mais on reste aussi isolé, donc, puisque d'autres sont prêts.
Est-ce qu'on est isolé? C'est une autre question. Je veux dire que, sur ce plan-là, les États-Unis, concernant Assad, sont sur la même position que nous. Simplement, il y a par ailleurs le jeu des Russes, qui, en vérité, font passer par-dessus tout leur alliance avec la Syrie, leur base militaire à Latakia et le reste. Et au moment où nous parlons, nous verrons ce que diront les enquêtes, on s'interroge même sur la question de savoir si les frappes intervenues en Syrie par des avions russes visaient des opposants Assad ou des gens de Daesh.
La France aussi, elle est entrée en action en Syrie depuis quelques jours. Et ces frappes à elle, qu'est-ce qu'elles visent? Elles visent Daesh, mais la France pour autant ne fait pas partie de la coalition. Quel est l'objectif de la France militairement en Syrie?
Si, la France participe à la coalition internationale contre le terrorisme, la coalition qui réunit un très grand nombre de pays, avec plus ou moins...
Pardon? Notamment pour les opérations en Irak.
Notamment pour les opérations en Irak. Simplement, dans ce cas précis, il a été décidé d'abord de se livrer à des analyses de la situation pour identifier exactement les camps Daesh, pour ensuite frapper là où on est certain que ce ne sont pas des populations, je dirais, innocentes, mais des terroristes. Alors la France invoque, pour justifier ces frappes ou cette intervention, la légitime défense.
L'article 51 de la Charte des Nations Unies, est-ce que c'est suffisamment solide?
Ça se défend, parce que nous sommes nous-mêmes attaqués par Daesh. Nous sommes attaqués directement ou indirectement par Daesh, ici ou là, en France ou hors de France. Et cet argument peut se défendre. Voilà ce qu'on peut dire.
Mais si on poursuit jusqu'au
c'est vrai
bout...
que c'est vrai que pour l'intervention russe c'est plus aisé puisque copain avec le dictateur fait appel aux Russes et donc Juridiquement.
Ils sont entre eux.
Mais juridiquement, pas de problème.
Je reviens sur la situation de la France. Donc on invoque l'article 51 pour attaquer des gens qui nous attaquent. Mais on se retrouve peut-être à tuer des citoyens français qui font partie, notamment, des rangs de Daesh, pour certains d'entre eux. Est-ce que juridiquement, ça ne pose pas un autre problème ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des conséquences judiciaires auprès de familles françaises qui pourraient finir par attaquer l'État français en disant « mon fils, même si il était dans une situation de combattant, a été tué par un avion français ?»
Je ne veux pas être trop catégorique, c'est une question délicate qui, j'imagine, a été réfléchie. Mais disons que dès lors qu'on a affaire à des opérations antiterroristes qui visent la France, aussi la France. Il n'y a pas de raison que notre pays reste bras ballants, inactif. Mais et s'il y a des Français qui participent à ces actions de destruction, en plus se diriger contre la France ou contre des Français, il n'y a pas de raison de rester passif.
Comment est-ce que vous vivez, comment est-ce que vous voyez ces images de milliers de migrants ou demandeurs du droit d'asile, les terminologies peuvent changer, qui viennent notamment de cette zone du monde et qui se retrouvent face à des frontières fermées, du barbelé et autres. Vous, l'Européen, vous êtes engagé donc sur cette construction. Comment est-ce que vous avez réagi ?
D'abord, j'ai envie de dire bravo le Liban, bravo la Jordanie, bravo la Turquie, malgré ses contradictions.
Qui accueille des millions
de réfugiés. Qui accueille des centaines de milliers de réfugiés. Mmh. Et auxquels on doit apporter assistance technique et matérielle pour l'effort humain considérable qu'ils entreprennent. Regardez la proportion de réfugiés par rapport aux populations, notamment au Liban et en Jordanie. Alors on doit leur dire chapeau, bravo, et les aider. Il faut absolument, en particulier, je souhaite personnellement que les États-Unis, qui sont les premiers coupables, pas de Obama, mais Bush, de la situation effroyable dans laquelle on se trouve dans cette région du monde.
Avec l'intervention en Irak.
L'intervention de Bush, illégitime, illégale, criminelle, qui a provoqué des centaines de milliers de morts et de destructions, qui a déstabilisé l'Irak, la Syrie et le reste. Il serait légitime qu'ils apportent au moins une aide matérielle beaucoup plus importante aux pays européens qui sont en lutte et aux camps de réfugiés. Ils le font, mais c'est trop modeste et trop timide.
Et alors, messieurs
les Américains, accomplissez vous-même, alors que nous-mêmes, Européens, nous apportons aussi notre soutien à la Palestine pour leur permettre de vivre en attendant qu'une solution puisse être trouvée. Il faut que les Américains, aujourd'hui, qui ont fait tant de mal, tant et tant de mal dans cette région du monde, apportent, si j'ose dire, des réparations de guerre.
Et lorsque vous voyez la Hongrie qui établit une frontière avec des barbelés,
c'est contraire aux valeurs qui sont celles de l'Union européenne. Le traité que nous,
auquel il faut sanctionner ces pays Orban, par exemple.
Le traité auquel ils ont adhéré inclut la charte des droits fondamentaux. C'est une grande avancée. Et ils ne la respectent pas. Donc, on doit envisager un certain nombre de mises en garde, d'éventuellement de sanctions. Ce n'est pas facile juridiquement, mais après
une condamnation morale.
Pour quelle raison la Hongrie bénéficierait-elle de toutes les aides que nous apportons depuis des années, si dans le même temps elle n'accomplit pas un minimum, disons, de devoir international jugé impérieux par l'ensemble de l'Union européenne?
Vous avez parlé du rôle des États-Unis, mais dans cette région, si le flux de migrants, si on sait que ça va continuer parce que la solution est loin d'être en vue, c'est aussi qu'il y a une lutte d'influence très profonde entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Eux ne bougent pas et c'est pour ça que ça pourrait, d'autant qu'on a signé donc des accords avec l'Iran, qui revient donc sur la scène internationale. Comment est-ce que vous voyez ce jeu de pouvoir à l'œuvre dans la région en Syrie ?
Mais ce jeu de pouvoir dont vous parlez, je répète, n'interdit pas aux États-Unis d'accomplir ce devoir de réparation et de soutien et de solidarité à l'égard de l'ensemble des réfugiés, qu'ils soient dans les pays arabes ou musulmans, je pense à la Turquie, ou en Europe.
Mais diplomatiquement, ce qui se passe, c'est assez contradictoire. On soutient deux adversaires. On soutient d'un côté l'Iran, de l'autre côté l'Arabie Saoudite.
On ne peut pas parler ainsi. Je veux dire que ce sont deux sujets différents. Il a été engagé un processus d'accord sur l'arme nucléaire avec les Iraniens. Bon, ça a été long, laborieux, j'espère que ce sera pleinement appliqué. C'est décidé, et c'est irréversible. Et comme vous savez, les États-Unis qui ont hésité ont finalement adhéré, et même le Congrès s'y est rallié. Puis, par ailleurs, il y a les engagements qui peuvent être pris par les uns et par les autres. Et on ne se plaindra pas que l'Iran contribue aussi, mais clairement et nettement, sans rire, sans confondre avec d'autres considérations, une lutte contre Daesh.
Monsieur Lang, le Proche-Orient, le monde arabe auquel vous vous intéressez, est en pleine explosion, reconfiguration. Est-ce que les États, c'est fini? Ou est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle carte du Proche-Orient avec de nouveaux pays comme un Kurdistan, un Sunnistan, un Chiistan, en Irak notamment? Est-ce que voilà la frontière Irak-Syrie est destinée à disparaître? Est-ce que de nouvelles choses vont émerger?
Je pense que ce serait très dangereux de, même si on pouvait être tenté intellectuellement de se livrer à un jeu de recomposition des frontières. Il y a un principe sage, vous le savez bien, qui a été fixé après les périodes de décolonisation, c'est ne pas remettre en cause les frontières héritées du colonialisme.
Oui, mais il y a des gens qui ont souffert de ça, les Kurdes par exemple.
Sans doute. Ça n'interdit pas qu'à un moment ou un autre, mais par, je dirais, par la voie de la négociation, de la discussion, on puisse trouver des solutions particulières. Le Kurdistan que vous évoquiez à l'instant, il existe. Il a été accepté, finalement, par l'Irak. S'il y a des solutions particulières, au cas par cas, pourquoi pas? Mais l'idée que l'on pourrait se livrer à une recomposition générale des frontières, ce serait ajouter le chaos au chaos.
Comment est-ce que vous voyez rétrospectivement l'expression « printemps arabe » qui, il y a 3 ans, semblait traduire l'arrivée d'une démocratie, disons, à l'occidentale? Comment les historiens jugeront-ils cette période?
Nous verrons bien, je ne suis pas historien.
Certes, mais comment la vivez-vous aujourd'hui avec un peu de recul?
Je dirais, le printemps arabe, ça n'a pas été une invention. Ça n'a pas été une pure fabrication de notre esprit d'occidentaux. C'était un mouvement de la jeunesse contre des systèmes répressifs. Et je pense que cette jeunesse-là, elle n'a pas disparu, même si les régimes, certains régimes, les tiennent en laisse. Mais je pense qu'il y a un avant et un après.
L'après est meilleur que l'avant?
En Tunisie, oui.
En Tunisie,
même
en
si, Égypte.
Même si la difficulté est grande de construire une démocratie partout, dans l'histoire, partout, toujours. Et nous devons, nous, soutenir, épauler, accompagner le travail des Tunisiens pour qu'ils puissent construire cette démocratie. Bon, le Maroc, nous nous sommes rendus récemment avec François Hollande, nous avons été remarquablement reçus par le roi et par les responsables marocains, est un pays qui a ouvert la voie à la liberté dans beaucoup de domaines et a amélioré la situation des femmes, même s'il faut encore aller plus loin. Il y a eu des changements positifs au Maroc. Ailleurs, la situation en Égypte.
La situation, c'est une contre-révolution?
Bien sûr, en Égypte, je ne vais pas raconter l'histoire de l'Égypte des dernières années, mais on a eu affaire à des frères musulmans qui ont, si j'ose dire, perdu la tête, un morsi qui a violé la constitution qui avait été adoptée, qui s'est livré à des actes arbitraires, qui, du coup, a suscité une nouvelle révolte du peuple, 2 millions, 3 millions de manifestants, à partir duquel l'armée s'est crue autorisée à intervenir. Et c'est regrettable, plus que regrettable.
Alors Jack Tang, nous allons opérer une pause sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, le temps d'un point d'actualité. On vous retrouve juste après, beaucoup de questions à vous poser sur le reste du monde. Retour international, nous recevons aujourd'hui Jack Lang, ancien ministre de la Culture et ministre de l'Éducation. Vous êtes aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe. Nous parlions de la situation notamment en Syrie, situation des hommes. Je voudrais remontrer une autre image qui, elle aussi, a fait le tour du monde. Il s'agit de la destruction de deux sites. Il y a eu le musée de Mossoul, il y a eu Palmyre, hein, qui est un joyau de l'humanité. Son conservateur assassiné, égorgé, vous le connaissiez. Comment est-ce que vous jugez, comment est-ce que vous appréciez, vous, homme de culture, la perte de ces éléments de l'histoire et des hommes?
Oui, l'homme qui a été assassiné à Palmyre avait fait...
Khaled al-Assad.
Oui, al-Assad avait fait corps avec Palmyre depuis 30 ans, 40 ans, il était là...
50 ans, je crois.
50 ans, pardon. Il était l'âme, le protecteur, et avec François Mitterrand, lors d'une visite d'État... nous rencontrions à ce moment-là Assad père, pour tenter en effet de nouer les fils d'un dialogue pour le Moyen-Orient, déjà.
Mais qu'est-ce qu'on perd avec la destruction de...
Et cet homme était un homme admirable, et l'avoir ainsi trucidé, assassiné, est une monstruosité insupportable. Qu'est-ce qu'on perd? On perd les vestiges de plusieurs civilisations, même pas seulement la civilisation romaine. Mais on ne peut pas en même temps séparer les hommes des pierres. Certains disaient, mais pourquoi vous n'intervenez pas pour protéger Palmyre? Mais comment intervenir pour protéger Palmyre sans se préoccuper des êtres humains? D'ailleurs, les êtres humains sont ici pris en otage. Mmh. On utilise Palmyre pour les enserrer un peu plus, pour les emprisonner un peu plus. Alors, il y a des mesures qu'on peut prendre, mais qui ne sont que latéral sur le marché mondial du trafic d'œuvres volées, parce que les gens de Daesh, à la fois ils détruisent, mais ils utilisent une partie des œuvres pour faire de l'argent.
Jacques Lang, il y a une autre catastrophe qui affecte actuellement le monde arabe et musulman. C'est ce qui s'est passé lors du pèlerinage à la Mecque, quelques 770 morts. Comment est-ce que ça s'explique? C'est incompréhensible. Il n'y a pas de progrès suffisant dans ce pays pour pouvoir gérer cette manifestation?
Je crois que les autorités saoudiennes elles-mêmes ont reconnu qu'il y avait eu un manque, une insuffisance, des lacunes dans l'organisation elle-même. Quand on réunit des centaines de milliers de pèlerins venus du monde entier, sans prendre des précautions assez fortes, on risque en effet ce qui s'est produit là. Ajoutons que, contrairement à ce qu'on peut croire vu de Paris, toutes ces personnes ne parlent pas l'arabe. Certaines viennent de pays musulmans où on ne connaît pas l'arabe. Et donc les instructions données verbalement ne sont pas comprises. Donc il n'est pas douteux que des mesures doivent être prises, et j'imagine que les autorités saoudiennes les prennent pour éviter qu'un tel désastre humain ne se reproduise.
L'Arabie saoudite, c'est un pays qui est très critiqué quand même en ce moment pour des questions de droits de l'homme, de politique, de choix, de propagande. Est-ce que c'est un pays que vous voyez évoluer?
Je suis un esprit positif et optimiste. Je n'ignore pas que l'Arabie saoudite n'est pas une démocratie. Je n'ignore pas que le wahhabisme s'est propagé à travers toute cette région du monde et a accompli parfois des désastres, notamment en contaminant intellectuellement un grand nombre de citoyens de cette région du monde. Et en même temps, c'est un pays qui veut se développer. La France en particulier va y construire des trains, des liaisons ferroviaires, le métro et d'autres éléments qui peuvent être un facteur de modernisation. Par ailleurs, les sociétés sont des activités souterraines. YouTube, en Arabie Saoudite, est un des pays où l'institution est la plus pratiquée, la plus présente. Il y a
comment
aussi...
Comment vous expliquez à ce moment-là que le régime, là-bas, s'accroche à des pratiques obscurantistes telles que la crucifixion, les décapitations par dizaines, enfin...
Oui.
Comment vous expliquez? Pourquoi il s'accroche à ça?
J'en suis moi-même, je suis un militant anti-peine de mort depuis toujours. Je suis révolté, écœuré, dégoûté quand je découvre et j'apprends ce type d'acte. En même temps, il faut, lorsqu'on veut se faire entendre, ne pas regarder les choses avec des lunettes différentes selon qu'on se tourne vers l'Arabie Saoudite, vers la Chine ou vers les États-Unis. Aujourd'hui, si on parle de ce sujet de la peine de mort, la Chine bat probablement tous les records mondiaux, avec cette différence qu'on ne connaît pas exactement l'ampleur des exécutions, qui sont considérables. Les États-Unis, interdit-on qu'on commerce avec eux ? Il y a quelques heures, une femme a été exécutée pour un crime qu'elle aurait commis voici 20 ans. Et la peine de mort doit être partout abolie. Et Laurent Fabius avait l'an dernier réuni un séminaire international contre la peine de mort. Et la peine de mort, il faut la supprimer partout, en Arabie Saoudite, en Chine, en Iran, aux États-Unis et ailleurs.
Une autre image que l'on pourrait retenir de la semaine, c'est un drapeau qui est hissé à l'ONU, celui de la Palestine, qui n'est pas État membre. Qu'est-ce que ça change dans le conflit le plus vieux qui a géré l'ONU depuis 70 ans? Ce conflit reste en pan. Est-ce qu'il est aujourd'hui finalement au second plan de l'actualité, la création de cet État palestinien?
Oui, je crains qu'en effet, il y ait parfois ici ou là, malgré les bonnes paroles, une certaine forme d'indifférence.
Même Bush, dont vous parlez tout à l'heure, était pour la création d'un État palestinien.
Oui. Et puis même certains pays arabes pourraient être plus allants qu'ils ne le sont, des pays où la religion musulmane est importante pourraient se mobiliser davantage. C'est vrai que parfois les Palestiniens peuvent avoir le sentiment d'être un peu oubliés, vous avez raison. C'est la raison pour laquelle moi je me réjouis que ce drapeau palestinien flotte désormais devant le siège des Nations Unies. Et la situation qui est faite à la Palestine est inacceptable, insupportable, injuste. C'est un peuple qui a droit, enfin, à une reconnaissance internationale, qui a droit, enfin, à la paix, à la sécurité, à la protection de ses habitants. Et la vie qui leur est infligée est inacceptable. Et je crois que, là encore, il faut, à un moment ou à un autre, agir. Les États-Unis ont le moyen d'agir davantage. L'Union européenne aussi, nous apportons des contributions financières. Vient un moment où il faut parler un langage de fermeté, de clarté au gouvernement de M. Netanyahu.
Mais, M. Lang, il y a beaucoup de jeunes Palestiniens qui ne croient même plus à la solution de deux États, en expliquant que la continuité géographique de cet État n'existe plus à cause de la colonisation. Est-ce que, en fait, il faut abandonner ce langage et ce processus de paix auquel plus personne ne croit sur place?
Non, il y a des raisons de ne plus croire au processus de paix. Il y a eu tellement de promesses non tenues, tellement de... Puis surtout, la colonisation n'a cessé, malgré les engagements et malgré le droit international, n'a cessé de se développer en Cisjordanie. Donc, en effet, je comprends que des jeunes soient palestiniens soient complètement désespérés. Tout a été entrepris pour diviser, couper en morceaux le territoire palestinien. Mais raison de plus pour aujourd'hui tenir bon et ne pas lâcher sur cette exigence. Plus que jamais, il faut réclamer. Je dois dire que personnellement, ma pensée sur ce plan-là est plus forte qu'elle n'était il y a 10 ans ou 15 ans. Il ne faut pas abandonner les Palestiniens. Il faut les soutenir. Et ce droit à un État palestinien doit être conforté, renforcé. Et l'Union européenne doit s'engager avec détermination. Les États-Unis aussi. Le processus de discussion qui a été engagée par Laurent Fabius me paraît une bonne chose, mais il faut que la France ne soit pas seule dans ce combat.
Jack Lang, il y a d'autres endroits du monde qui ont l'air quasi oubliés. Je regarde du côté de la péninsule.
À Lima, nous allons organiser tout au long de l'année une série d'événements sur la Palestine. Nous allons accueillir dans quelques semaines un musée de la résistance palestinienne constitué d'œuvres d'art offertes par des artistes français ou européens, et je vais signer un accord avec l'ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Ce sera aussi une manière de dire nous croyons à la Palestine, nous croyons à l'avenir de la Palestine.
Voilà. Un autre endroit du monde dans lequel vous avez été, où vous êtes impliqué, c'est sur la péninsule coréenne. À une époque, vous avez été nommé d'ailleurs par Nicolas Sarkozy en 2009 C'est la dernière fois que vous êtes allé, en novembre 2009, je crois, sur place en Corée du Nord. Un régime totalement figé, totalement fermé. Ils vont fêter les 70 ans du parti unique. Va peut-être y avoir, on pense, un tir d'essai nucléaire ou un lancement de fusée. Et donc, comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette question? Ça aussi, c'est un conflit oublié.
J'ai à ce moment-là, et je ne le regrette pas, contribué à faire ouvrir un bureau français à Pyongyang, alors que tous les autres pays européens disposent d'ambassades. Pour des raisons que je ne vais pas développer ici, la France, à un moment précis, a raté le coche. Cela étant dit, le régime est ce que vous dites. Moi, j'ai souvent, longtemps espéré qu'un grand deal, d'ailleurs, Bill Clinton y avait pensé, et dans ses mémoires regrette de ne pas être allé jusqu'au bout, un grand deal avec la Corée du Nord, associant la Chine, la Corée du Sud, le Japon, pour tenter, à partir d'une négociation globale, de mettre un terme à cette situation qui, sur le plan du nucléaire, n'est pas acceptable.
Il y a un autre pays sur lequel vous êtes impliqué, c'est Cuba. Est-ce que vous avez été étonné par cette réconciliation, ce rapprochement cubano-américain?
Je dirais enfin. Et puisque je parlais de Bill Clinton, je me souviens avoir été embarqué, si j'ose dire, par François Mitterrand dans un Concorde pour rendre visite à Bill Clinton débarquant à la Maison Blanche. Et François Mitterrand lui a dit une de vos premières décisions à prendre, il lui demandait conseil, c'est de lever l'embargo sur Cuba. Mais à ce moment-là, il y avait une telle pression des exilés cubains qu'il n'a pas pu prendre cette décision. Et chapeau quand même à Obama, bravo, d'avoir levé l'embargo, d'avoir enfin rétabli des relations diplomatiques. Et je me réjouis aussi que la France ait établi de bons rapports. J'étais allé aussi en mission à Cuba, rencontrer Raúl Castro, et à partir de ce moment-là, les relations économiques et culturelles entre la France et Cuba se sont intensifiées.
Mais sur le plan des droits de l'homme, il y a encore quelques réserves?
Bien sûr. Il y a beaucoup de pays sur lesquels il y a beaucoup de réserves à exprimer dans le monde. Et on peut mener une politique internationale qui doit tenir les deux bouts de la chaîne. D'un côté, des relations d'État à État, et de l'autre, je dirais, des relations de peuple à peuple. On ne met pas les droits de l'homme dans sa poche sous prétexte que l'on veut établir de bonnes relations avec les gouvernements. Et pour avoir la chance d'accompagner François Hollande dans ses déplacements dans le monde arabe, je peux vous dire que chaque fois qu'il se trouve en présence d'un chef d'État d'un de ces pays, il ne manque pas de dire ce qu'il pense sur la réalité des droits de l'homme dans ce pays.
Alors Jack Lang, on fait le tour du monde depuis le début de cette émission, notamment du monde arabe. Si on parlait un peu de la France, un débat franco-français, je ne vais pas vous demander de commenter la phrase. Une députée européenne a parlé de la France comme un pays de race blanche, mais il y a un contre-débat, un débat au-delà, de savoir si ce mot, race, doit disparaître des textes constitutionnels. Vous êtes prof de droit, vous trouvez que c'est un bon débat?
Écoutez, c'est un débat, oui, on peut le comprendre, je veux dire, intellectuellement ou philosophiquement, mais non, le vrai sujet n'est pas là. Ouais. Le vrai sujet, c'est, pour moi en tout cas, et j'y travaille d'ailleurs, je réfléchis à un événement qui pourrait aller dans ce sens. Je pense qu'il faut se réjouir, voilà, il faut adopter sur ces questions une attitude, je dirais, positive. Et c'est une chance pour la France d'être un pays qui a été constitué par une multitude d'agrégats. C'est notre histoire. Beau. Madame Morano, sait-elle que, voici un siècle, les Bretons étaient considérés comme des sous-êtres humains, et que on les a mis en première ligne à la guerre de 14, les premiers à être soumis au massacre allemand. Madame Morano, sait-elle que les Basques ont été eux aussi maltraités, et les Italiens à une époque, et les Polonais, et tant d'autres. Et une des grandeurs de la France, c'est d'être un pays métissé, ensemencé par tant et tant de cultures. C'est un pays arc-en-ciel. Et pour reprendre une très belle expression de la constitution marocaine qui parle des affluents, qu'elle revendique, les affluents africains parle pour le Maroc, les affluents méditerranéens, les affluents hébraïques, c'est ça la beauté de la France. Ces affluents culturels, intellectuels, religieux même.
Mais vous trouvez
il faut en faire une force. Il faut en être, fier au lieu d'être sans cesse en train de pleurnicher ou d'éructer.
Et vous trouvez que le gouvernement français fait preuve justement de. Vous avez cette verve pour défendre le métissage, etc. Est-ce que vous trouvez que le gouvernement français ouvre grand les portes en ce moment? On est plutôt dans la limitation du phénomène de migration de.
Non, je pense que c'est la pensée que j'exprime à l'instant avec mes propres mots,
et
celle la même de François Hollande, que j'entends souvent s'exprimer sur ces sujets, de Manuel Valls. Écoutez, hier, il a tenu des propos à l'Assemblée nationale, voire il y a 3 jours, pardon, je mélange les dates, auxquels j'adhère totalement. C'était émouvant et bouleversant en réponse à cette histoire de Madame Morano. Donc, enfin, c'est une conviction forte et totale et pleinement partagée par l'ensemble du gouvernement français.
Mais quant dans à la les question, faits, l'accueil des migrants, ça se pose là.
Oui, mais c'est pas si simple parce que beaucoup de migrants, d'abord, ne choisissent pas la France. Et se préfèrent se rendre dans des pays anglo-saxons ou en Allemagne où ils pensent trouver davantage de travail. Le système, depuis que François Hollande est président de la République, les lois ont été, et les décrets, les textes, beaucoup améliorés pour faciliter les choses, accélérer l'accès au droit d'asile, faciliter un accueil plus humain. Il y a certainement encore mieux à faire, je le pense.
Jack Lang, est-ce que vous regardez la télévision parfois, les documentaires? Bon, vous voyez ce que je veux dire, il y a quelques jours, un documentaire tourné à l'Élysée autour de François Hollande avec la nouvelle ministre de la Culture d'alors, Fleur Pellerin, qui vous succède quelques 34 ans après que vous-même ayez occupé ce ministère. Et donc, François Hollande lui conseille, va voir Lang, il a des idées. C'est un hommage ou ça vous embarrasse d'être toujours un peu une sorte de figure tutélaire comme ça du ministère de la Culture?
Il faut prendre ça... De manière souriante,
bon,
disons.
C'est ce que nous faisons tous, mais...
On en a fait beaucoup là-dessus, beaucoup trop.
Lang a des idées? Il en a encore?
C'est l'appréciation de François Hollande, je suis très touché. Ouais. Qui ne veut pas dire que Fleur Pellerin n'a pas d'idées. C'est une femme très engagée, très courageuse, qui en ce moment fait voter...
Vous l'avez rencontrée?
Je la rencontre assez souvent. D'ailleurs, elle nous donne un petit coup de main à l'Institut du Monde Arabe. Elle inaugurera avec moi dans quelques jours la première biennale de la photographie du monde arabe. Elle était présente à l'inauguration de l'exposition Osiris en même temps que le président de la République et j'ai avec elle des rapports humains et intellectuels très chaleureux.
Vous avez été surpris néanmoins de cette image, de cette déclaration de François Hollande?
Bon, ça fait partie, vous savez. Moi, à sa place, je n'accepterais pas. Vous paraîtrez moins démocrate que lui, j'accepterais pas que des caméras se baladent comme ça, parce que le droit à la galéjade doit être accordé à chacun. Donc il y a un minimum.
Okay.
On en a beaucoup ri, mais je voudrais pas que cela affaiblisse la ministre de la Culture qui l'a d'ailleurs pris du bon côté.
Jack Lang, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur les débats qui traversent la gauche, qui font des frondeurs d'un côté, Macron de l'autre côté...
Macron ras-le-bol.
Voilà, ras-le-bol,
comme dit Martine Aubry.
Ces déclarations qui surprennent toujours.
Il y a deux gauches.
Non, ce qui est vraiment attristant aujourd'hui, franchement, c'est moins les débats qui ne sont pas nécessairement d'une haute tenue, que cette incroyable division fratricide, notamment pour les élections régionales. Ces écologistes, notamment, qui ont été élus quand même dans des circonscriptions socialistes, auraient dû, vis-à-vis de la majorité, avoir un comportement plus loyal. Je pense notamment à Cécile Duflot, qui a été élue à la place d'une remarquable députée socialiste à Paris, dans une circonscription orientée à gauche. Donc il y a un minimum, disons, d'éthique. Ces gens-là parlent beaucoup de morale, minimum d'éthique, de loyauté. Bon, et si l'on veut évidemment faciliter le retour de la droite au pouvoir, ça c'est garanti.
Vous avez été élu d'une région du nord de la France où l'extrême droite pourrait remporter la présidence, Marine Le Pen. Comment est-ce que vous réagissez à ça?
C'est terrible. C'est insupportable. Et j'espère que tout va être entrepris pour éviter ce destin sinistre. Vous savez, je ne veux pas dire, pas comparer s'il n'est pas comparable. Mais quand même, dans l'histoire de l'Europe, la division des démocrates a permis à des dictateurs de prendre le pouvoir. Je ne dis pas que Mme Le Pen, c'est Hitler. Mais quand même, Hitler, en 1933, Il a accédé au pouvoir avec une majorité relative. Mmh. Parce que tout simplement, les socialistes de diverses obédiences, les centristes et les autres, ne voulaient pas faire accord ensemble. Bon, aujourd'hui, il y a une nécessité nationale quand même. On ne peut pas accepter que un parti, au fond quand même, néo-fasciste, accède à des responsabilités ici dans une région, éventuellement ailleurs à la tête de municipalités ou de l'État. Donc il y a un moment où il faut un sursaut national et républicain, et toutes ces petites bagarres secondaires d'ego sont ridicules, infantiles et dangereuses.
Monsieur Lang, est-ce que Martine Aubry aurait dû y aller? Est-ce qu'elle aurait dû défendre les couleurs socialistes pour la région dans le Nord?
Elle explique qu'elle ne peut pas à la fois être maire de Lille et tête de liste de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. C'est son choix à elle, je ne peux pas être ni pour ni contre. C'est vrai que si elle était tête de liste, en raison de sa notoriété, de son énergie, elle aurait donné à la liste socialiste de plus grandes chances de l'emporter, c'est vrai.
Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui l'impopularité de François Hollande à 2 ans de l'élection? Vous avez côtoyé François Mitterrand, qui a lui aussi connu cette impopularité. Il a d'ailleurs été réélu. Rien n'est joué pour 2017.
Vous venez de donner la réponse vous-même.
Ah ben voyez,
en réalité, l'impopularité, bon, elle est provisoire. Et puis en plus, je dirais que l'impopularité, entre guillemets, moi j'aime pas beaucoup ce mot, de, même si j'ai la chance de bénéficier à l'inverse d'une
popularité,
mais je méfie tous ces mots. Non, disons qu'il y a dans la population une certaine réserve, je veux dire. Et pour accompagner François Hollande dans beaucoup d'endroits en France, l'autre jour nous étions à l'Opéra, j'ai connu des moments à l'Opéra, par exemple, où François Mitterrand ou Daniel Mitterrand étaient conspués en 83 ou 84. Tel ne fut pas le cas l'autre soir, par exemple, pour l'ouverture de la saison du ballet de l'Opéra où se trouvait François Hollande, où il a été accueilli avec une certaine sympathie. Donc je pense que tout ça peut être reconquis. J'ai confiance. François Hollande est un bon président. Je crois que les Français vont progressivement prendre conscience que cet homme, d'abord, mène une politique internationale de présence forte, bon, économique, culturelle, diplomatique.
Jack Lang, est-ce que le grand échec, ce n'est pas sur la question de l'emploi?
Mais oui. Donc, j'espère que les mesures qui ont été prises vont porter leurs fruits. C'est vrai. Et puis, il y a l'aspect
humain. Il
est encore temps, nous avons 18 mois devant nous. Mmh. Et par ailleurs, l'homme est un homme humain, ouvert, respectueux, qui a le sens de l'État, de l'intérêt général. C'est un homme intègre. Et lorsque viendra le moment du vrai débat, il n'est pas ouvert. Le choix entre telle personnalité de droite, je ne veux pas la désigner à l'avance, et François Hollande, je crois que la balance pèsera en faveur de François Hollande. Parce qu'il est un président humain, un président respectueux, un président qui accomplit son travail avec un sens aigu de l'État.
Jack Lang, vous rendez hommage à François Hollande, vous le citez. Est-ce que vous êtes disponible? Votre nom circule encore, vous le savez, pour tel ou tel ministère, affaires étrangères, si Laurent Fabius part au Conseil constitutionnel. Comment est-ce que vous voyez ça, d'être comme ça dans les noms qui sont cités? C'est pas désagréable?
Non, ce n'est pas désagréable, mais en tout cas, disons, je suis à la tête de l'Institut du Monde Arabe. Quand j'accomplis une mission, je l'accomplis à fond les manettes. Bon. Et j'ai décidé de faire de cet institut un institut rayonnant. Et c'est un bonheur pour moi et pour tous ceux qui se passionnent pour le monde arabe de constater que, quelle que soit l'heure à laquelle on vient, tout à l'heure, hier, les gens se croisent, viennent à des colloques, des débats, des expositions, des concerts. Et cette maison revit, et je suis heureux pour le monde arabe en mouvement, pour le monde arabe de l'avenir, que l'Institut ait retrouvé les couleurs.
Et, monsieur Lang, est-ce qu'au PS, vous ne voyez pas émerger une génération Hollande? C'est-à-dire des gens assez jeunes, plutôt compétents, qui se retrouvent ministres très jeunes, Macron, El Khomri, Fleur Pellerin,
Mathias
Fekl, Najat Vallaud-Belkacem. Est-ce que c'est la génération Hollande?
On peut le dire, oui, parce que ce sont des ministres qu'il a choisis avec Manuel Valls. On peut dire aussi Manuel Valls, on fait partie. La jeunesse ne suffit pas pour donner la qualité, mais c'est très bien. Moi, je suis pour que l'on on entremêle les expériences et les nouvelles générations. C'est Mitterrand l'a fait, moi je le fais quand je peux, pour faire surgir de nouveaux talents. C'est indispensable.
Merci.
Et parmi ceux que vous citez, il y a des personnes de très grande qualité et qui incarnent finalement, certaines d'entre elles, pas toutes, ce que qu'on peut appeler la gauche du mouvement.
Voilà.
La gauche, c'est d'abord le mouvement et contre l'ordre injuste des choses.
Excellente suite de programme sur les antennes de TV5, de RFI, bonne lecture du Monde et naturellement, ne manquez pas les expos, les débats à l'Institut du Monde Arabe à Paris, en plein cœur de la capitale. Merci d'avoir été avec nous, Jack Lang.
Merci.